c'est Jean-Philippe Bergeron. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, en réponse à la semi-question que j'ai posée la dernière fois, comment est-ce qu'on peut se débarrasser de l'État à long terme? La réponse est assez simple. On n'aura pas ce résultat-là tant qu'on s'attaquera pas à la racine. Qu'est-ce que c'est la racine? Ben, je vais vous donner quelques expressions étatistes et vous allez me dire si ça fait le moindrement de sens. Les pères fondateurs. Oncle Sam. Les socialistes sont des mères. Les droitistes sont des pères stricts. Les soldats sont des frères d'armes. Le pays est la mère patrie. Mao était le père de la révolution chinoise. Staline était le père de son pays. Une expression en anglais, c'est « my country, right or wrong ». Donc, j'appuie mon pays par-dessus tout. Une expression anglaise, blood is thicker than water, qui peut être traduite par les liens du sang sont les plus forts. D'un côté, on a un nationalisme, d'un autre côté, on a les préjugés. Dans le fond, c'est un pléonasme, c'est exactement la même chose. Un argument parmi tant d'autres que les étatistes utilisent pour justifier l'État, c'est l'État, c'est pas un vol, l'impôt est pas un vol, parce que les gens sont libres de partir s'ils sont pas contents. En anglais, c'est love it or leave it. Dans les mauvaises familles, les mauvais parents disent, tant que tu vas être sous mon toit, tu vas faire ce que je te dis. Si t'es pas content, tu peux t'en aller. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? Le gouvernement, l'État, c'est un effet de la famille. La famille actuelle, qui n'est pas la famille qui pourrait devenir et qui, selon moi, la famille doit changer avant qu'on va avoir un État différent ou une absence d'État, idéalement. Mon argument va comme suit. C'est que la famille, par définition, est une dictature. Un enfant naît essentiellement dans une situation de dépendance totale, de quasi-esclavage. Ça ne veut pas dire que la famille est par définition mauvaise ou malveillante. C'est un fait biologique. L'être humain naît dans un état qui est quasi-larvaire. Donc, la question que je voudrais vous poser, c'est, supposons que quelqu'un que vous aimez se retrouve sous votre contrôle pour une période assez longue, on parle de nombreuses années, là, plus que 10 ans. Il a absolument besoin de vous pour à peu près tout. Il est handicapé ou peu importe. Il a besoin pour se lever, se vêtir, manger, prendre son bain. Il est totalement dépendant envers vous. On va supposer aussi que cette personne-là n'a pas choisi d'être dépendant envers vous. Et cette personne-là ne peut pas vous quitter non plus. Peu importe ce que vous lui faites, elle doit rester avec vous pour encore des nombreuses années au moins. Je viens de vous décrire l'enfance dans des termes adultes. C'est à peu près ce que chaque enfant va vivre. Mais c'est ça, c'est sûr, certains parents sont meilleurs que d'autres, et je nie pas ça. Donc, certains enfants, selon moi, quand même assez peu, mais certains enfants vont vivre une très belle enfance dans cette situation-là, mais ça n'empêche pas que c'est cette situation-là qui est naturelle dans le développement de l'être humain. Pour revenir à cet exemple-là, que cette personne-là est totalement dépendante envers vous pendant de nombreuses années, si vous aimez vraiment cette personne-là, vous faites quoi? La réponse est quand même assez simple. Vous faites tout votre possible pour que cette personne-là soit heureuse. Vu qu'elle ne vous a pas choisi, vous faites en sorte que même si elle pouvait choisir, elle choisirait de passer ces années-là avec vous. Malheureusement, c'est pas comme ça que la plupart des parents se comportent envers leurs enfants. La plupart des parents que je connais, et même des parents, c'est au-dessus de la moyenne, demandent pas à leurs enfants leurs opinions, ou du moins pas sur les questions importantes. Je dirais, qu'est-ce qu'on mange pour souper, ça compte pas, là. Donc, j'ai jamais rencontrer un parent qui demande à son enfant ses impressions, ses opinions, ses sentiments sur la famille dans laquelle il vit. J'ai jamais rencontré un parent qui demande à son enfant, qu'est-ce que tu penses de mon comportement? Parce que la plupart des parents vont jamais se gêner pour critiquer le comportement de l'enfant, mais étrangement, le comportement des parents est tout sans aucun blâme. On peut faire un parallèle avec l'État avec ça. Les votes, les citoyens peuvent se faire arrêter, peuvent se faire critiquer par l'État, peuvent se faire interdire des tonnes de choses, mais étrangement, les dirigeants sont peut-être pas sans blâme, mais sans punition, pour être sûr. Je dirais, la dernière fois qu'un politicien, combien de politiciens vont en prison? Combien de policiers vont en prison? Le nombre est très, très, très faible quand on compare au nombre d'atrocités et de mauvaises choses qu'un politicien ou qu'un policier peut faire. Donc, selon moi, les parallèles entre une enfance moins que parfaite et l'État sont assez évidents et assez convaincants. Donc, pour encore répondre à la question du dernier podcast, selon moi, la fin de l'État va passer par élever nos enfants et encourager les autres à élever nos enfants et leurs enfants sans violence. Selon moi, ce que les libertariens, ce que les anarchistes ont oublié de mentionner et ont oublié et ont, quand ont laissé de côté dans la plupart des pendant de nombreuses années, c'est que le principe de non-agression s'applique à tous les êtres humains. Donc, par extension, le principe de non-agression s'applique aux enfants. Donc, pour élever un enfant, il faut de la gentillesse et, lorsque l'enfant est assez vieux, ce qui arrive assez tôt, selon moi, la négociation est la clé. Pas de violence, pas de coups, pas de cris, pas hausser la voix, pas de fessées. C'est la façon dont on va bâtir un monde meilleur à long terme. Soit dit en passant, cette méthode-là, un très bon avantage, c'est que vous pouvez parler de cette méthode-là à des gens qui sont pas libertariens, qui sont pas anarchistes. De cette façon-là, vous allez pouvoir avancer notre cause sans tomber dans l'éternel débat de sans l'État ou qui va bâtir les routes, sans l'État, qui va protéger la veuve et l'orphelin, sans l'État, qui va faire le système de santé, qui va nous protéger des méchantes compagnies. Ce sont toutes des très bonnes questions, mais j'ai l'impression que dans le monde où on vit aujourd'hui, ce sont pas les questions sur lesquelles on doit s'attarder lorsqu'on parle à des personnes qui sont pas libertariennes. des personnes qui sont, c'est comme tout le monde, j'ai l'impression que ces gens-là sont beaucoup plus ouverts à discuter de parenting, de parentage. Je cherche le bon mot en français, là, je m'excuse. De comment élever les enfants de la meilleure façon possible. J'ai l'impression que c'est la bonne discussion à avoir pour avec de nombreuses personnes, surtout des parents, évidemment. Pour ceux qui me disent que, ou qui disent aux gens que les enfants ou certains enfants sont violents de nature et qu'ils ont besoin de violence pour être élevés, pour être contrôlés, selon moi, c'est complètement ridicule. La violence, pour moi, c'est un langage. Et un enfant apprend pas un langage si on, par lui-même, sans aucune exposure ou sans jamais être exposé à ce langage-là. C'est complètement ridicule. Je veux dire, un enfant va pas apprendre le mandarin si personne lui parle de mandarin ou personne lui dit des mots en mandarin. Personne lui fait lire ou lui fait apprendre à lire du mandarin, un enfant va pas apprendre le mandarin. De la même façon, un enfant faut pas être violent de nature, faut qu'il apprenne la violence quelque part. Aussi, selon moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens manquent de patience envers les enfants. Je vais vous donner un petit exemple de ce que je pense. Vous savez, ça m'arrive, ça vous arrive d'oublier quelque chose qu'on vient juste de vous dire. Est-ce que ça mérite qu'on se fâche contre vous pour ça ou qu'on vous hausse la voix? Selon moi, non. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Donc, si un enfant, si on dit une consigne à un enfant et qu'il l'oublie 2 minutes plus tard, c'est dommage, mais la plupart des parents vont se fâcher, hausser la voix. C'est pas les. J'ai une petite anecdote à vous raconter là-dessus, et probablement la chose la plus mignonne que j'ai vue, entendue dans la dernière année. Je suis allé au barbecue de Free Domain Radio, et il y a quelques mois. Et Stéphane Molyneux, qui est probablement ma plus grande influence dans le mouvement anarchiste libertarien, a une fille de 2 ans et demi qui s'appelle Isabella. Et à cette histoire-là, c'était à la première journée, c'était un vendredi. Et Isabella était surexcitée de voir autant de gens dans sa maison. Donc, carrément, elle criait assez souvent. Et là, ils ont, dans la maison, ils ont la consigne qui est selon moi raisonnable. On crie pas dans la maison. Il y a personne qui crie. Maman crie pas, papa crie pas. Alors, Isabella, on crie pas dans la maison. Tu peux crier dehors, mais dans la maison, on essaie de rester quand même un volume raisonnable. C'est pas comme ça qu'ils disent, mais c'est ça. Pas de cri dans la maison, c'est une des règles qui, selon moi, est assez raisonnable. Donc, mais là, Isabella, excitée comme elle était, elle l'a oublié plusieurs fois. Peut-être en une demi-heure, elle a crié peut-être 3 fois. Les 3 fois, Steph a été très calme, très gentil. Isabella, est-ce que tu cries dans la maison? Est-ce qu'on crie dans la maison? Elle dit non. Hein? On crie pas de cri dans la maison, s'il te plaît. 3 fois. Et la troisième fois. La troisième fois que cette chose-là arrive, Isabella a fait « Je m'excuse, papa. » Et, ah, je pense que mon cœur a fondu lorsqu'elle a dit ça. Et, selon moi, c'est un très bel exemple de qu'un enfant peut comprendre, un enfant peut être élevé sans violence, sans hausser la voix. Ils n'ont jamais haussé la voix, ils ont juste. Steph a juste dû répéter quelques fois. Et elle comprend la règle. Et tant que la règle est universelle et fait du sens, il n'y a pas de il n'y a pas de problème, selon moi. Donc, pour revenir, la raison pourquoi Steph est resté calme, selon, ou une des raisons, c'est que un enfant qui crie, ça viole pas le principe de non-agression. Donc, un enfant qui crie mérite pas d'être crié après, ou mérite pas d'avoir une punition, ou d'être frappé carrément. Parce que je connais beaucoup de familles où ce que crier lorsqu'on devait pas crier, ça méritait d'être frappé ou d'être fessé. Donc, un enfant qui désobéit viole pas le principe de non-agression. Un enfant qui crie non plus, pas plus qu'un enfant qui écoute pas. Donc, la réponse, c'est que si les enfants sont élevés de façon non-violente, de façon avec de meilleure façon, carrément, c'est s'ils sont élevés comme ça, selon moi, j'ai pas de preuve pour l'instant, évidemment, vu que c'est on parle de l'avenir, mais si un enfant a pas de violence dans sa vie, il va pas croire en la violence pour résoudre les problèmes sociaux. Ils vont pas croire en l'État. Pas plus qu'un enfant qui est élevé de façon non religieuse a énormément de raisons de croire en un Dieu. Donc, l'autorité arbitraire, l'autorité violente, telle qu'elle existe aujourd'hui, va leur sembler comme quelque chose de complètement attardé, un anachronisme d'un temps brutal, le temps où on est né ici, vous et moi, et c'est comme ça que l'État va s'effondrer. C'est comme ça que l'État ne sera plus pris au sérieux par la majorité des gens lorsque la majorité des gens vont être élevés de façon non violente. Donc, c'est mon point. Si vous avez des questions, des suggestions, des objections, je serais ravi d'en parler. Je serais ravi d'avoir vos commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se reparle bientôt. À la prochaine. You were born into a strange world, like a candle you were meant to share the fire. I don't know where we come from, I don't know where we go, but my arms are made to hold you, so I will never let you go. Cause you were born to change this life.